Un moment, com has estat programat en Lockout? Le yen diuran, sous peine de poursuite. Kuka, Nanduka, Arumega, Hortensias, qui sont pas ni roses ni bleus. Mais la plus goutte de papé sec, de papé mouneur, berlette. Hortensias blues. La plus goutte de mousite, plein causite. S'y accostume, et la télé que passera ouverte. Ruski Simon, Coran Bongo de Mouzit, d'Hortensia, que vous voulez dire, et la terre deviendra un casal, un slow read, un slow read de Papé Mouned de Biot. Oh, mon Dieu dans l'Allemagne. Bayanos, lunos de musit de cada jorn. Sinkim, enfin, musit humbus. A que temps t'avais que passera? Le maro soukouk que trabiquera. L'eau sou se voudra pas vu au tauma. Et que stern ne dira. Et que tournera fouillard en arrêt. Et que parochera la raille verte, le rayon vert, la carre, la sainte face, comme une estourbaille, l'ospice en tader que prabran. Le carre que se couvre, le foyer mort vers l'ose musile, l'os papes et l'os grands paperaires. La carre, le visage, dans une hurasta un buisson, une sega d'ombres. Et le wax et les patates en tader que pouillent, que montent et que praven. Comme estoussin du chèvrefeuille, bita auguerre d'au loup, de peur hum. Que va bien, que bien. Les pestes que se nourrissent au pays, que va bien. Les moteurs dans les ventes que trepent, que va bien, que aquí les organes en au pau, les idées, les slurons, se bolnes gabrona, que en bouchigues boucholes de tout couleur, que aquí arrêt le porte de slumbrique. Les vieilles que scrutent le sol d'abrus pès, d'abrus esclops, les idées vieilles, madures comme slurums, qu'atteignent le son massacraille en tales esclaries et que baden, es lentas, du pêchi rocawan, que volent nesta bluhades, sous papé sud-ouest, à qui cause, les lagus qui arrivent à nubles, le maques amanante, l'ing que s'entenen, la tous, la tous des esmeranges, la terre que sec, Los terres van para mí hasta terres. Y que ven, los terres así que pantachan lo malastro, que se ensacan de pescum mil queres. Los sagas que apernan lo huac de entre todos los huacs, los cataplasmas du hemschimic. Los terres van para mí hasta terres.
Cette rencontre, Bernard Brett, qui est président de la CMCS de Bordeaux, va pas tarder à arriver pour se joindre à nous. Donc, bien écoutez, aujourd'hui, on va échanger un peu sur, à l'occasion des 60 ans du comité d'entreprise, faire un petit bilan où en sommes-nous de la politique culturelle, où voudrions-nous en être et en tout cas, quelles perspectives. Pour discuter un peu de ce sujet, un certain nombre de personnalités sont autour de la table. On va commencer, il y a Alain Thomas, qui est secrétaire du comité d'entreprise de la Conex. Voilà, qui... T'es contrôleur à la Conex, toi?
Non, je suis responsable de ligne.
Responsable de ligne, voilà. Céline Denoyel, qui est donc secrétaire du comité d'entreprise régional des cheminots. Arrivera Bernard Brett. Et puis donc, Jean-Michel Le Terrier, un certain nombre d'entre nous le connaissent, c'est un habitué du ZEST, un ancien responsable de la politique culturelle de la Confédération, de la CGT. Il est docteur en esthétique, c'est un garçon qui a beaucoup travaillé. Et d'ailleurs, la thèse qu'il avait faite à l'occasion de son doctorat était sur les comités d'entreprise. Il est écrivain également, il a commis de nombreux ouvrages, La culture au travail, L'aventure culturelle de la CGT, de nombreux ouvrages sur les comités d'entreprise, un livre qui vient de sortir, Penser ou repenser la culture, qui est là. On a un petit problème, c'est qu'on devait être livré, mais on n'a pas reçu les bouquins. Mais enfin, on vous le montre. Peut-être même qu'à la Maison de la Mémoire en Marche, à la librairie, vous en trouverez. Mais vous pouvez les commander, ce n'est pas un problème. Et donc, il avait également écrit un livre à l'occasion du cinquantenaire des comités d'entreprise. Ça s'appelait Construire. C'est un livre qui avait été écrit, réalisé avec la CCAS. Alors, quand on fait référence à un anniversaire, avec nous toujours cette volonté de ne pas faire dans le muséal, mais de toujours se tourner vers l'avenir, l'idée un peu de cette rencontre, c'est de se dire d'où on vient et où on va. Et je pense que là, Jean-Michel peut nous donner, nous rappeler quelques éléments sur cette conquête qu'ont été les comités d'entreprise.
C'est un bon enchaînement parce qu'il y a un écrivain célèbre qui est un peu oublié aujourd'hui, mais qui est quelqu'un qui a beaucoup marqué dans le mouvement ouvrier, qui s'appelait Jean Guéhenno et qui était un autodidacte et qui est devenu une sorte de ministre à la Libération. Enfin, il était responsable de tout le secteur d'action culturelle. Et donc, comme il était autodidacte, et qu'on disait à Jean Guéhenno, mais où vous allez comme ça? Il disait, quand on me demande où je vais, je réponds d'où je viens. Et je pense que par rapport au CE, c'est ça aussi le problème. La question, c'est pour savoir où on va et où on veut aller, il est important de savoir d'où on vient. Et je crois que de ce point de vue, l'histoire des CE est une histoire assez étonnante. Et notamment, il y a un article dans ce livre qui s'appelle « Les CE, l'autre exception culturelle ». On parle beaucoup de l'exception culturelle en matière économique et la protection qui aujourd'hui encore maintient hors du marché les œuvres de l'art et de la culture. Et donc c'est un statut d'exception qui est réclamé pour la culture. Je crois que les CE, réellement, c'est une autre exception culturelle française. En effet, la France est le seul pays au monde qui dispose de cette sorte de structure assez particulière, puisqu'en fait, les CE sont des organismes autogérés. Et que dans un pays comme le nôtre, des formes d'existence d'autogestion restent quelque chose du domaine de l'exception. Une exception à défendre, une exception à étendre aussi. Donc il y a un premier niveau de singularité, c'est ce statut d'exception culturelle, d'organisme autogéré par des salariés et par des élus, mais qui sont des salariés. Et que ces salariés, c'est une autre exception. Dans la pratique qui est la leur, ils ont un mode de gestion d'activité sociale et culturelle qui n'est pas le mode de gestion économique dominant dans ce pays. C'est-à-dire que c'est une gestion dont l'ambition première, la finalité, n'est pas la recherche du profit. Et là aussi, c'est quelque chose d'exception. Il y a quand même peu de structures dont le but premier ne soit pas la recherche à tout prix d'une rentabilité, d'une finalité économique. Donc c'est un deuxième niveau d'exception. Et troisième niveau d'exception, c'est que ceux qui en sont les acteurs principaux, donc à savoir les salariés élus, sont des gens qui n'ont pas fait l'ENA ou Polytechnique. Alors qu'on dit que pour être un bon gestionnaire, il faut faire des grandes écoles. Eh ben non, depuis 60 ans maintenant, il y a des salariés, ouvriers, employés, techniciens, ingénieurs, qui montrent qu'ils sont tout à fait capables de gérer, y compris des fois, des patrimoines importants. Donc je crois que c'est une exception culturelle majeure et qu'il faut la défendre. D'autant... Je parlerai un peu de l'histoire, d'autant qu'aujourd'hui, cette exception, comme toute exception, elle est menacée. Menacée pour un tas de raisons très, très concrètes, les premières étant les fermetures d'usines. Et lorsqu'une usine ferme aujourd'hui, c'est la disparition du comité d'entreprise. Moi, j'étais responsable des questions culturelles au comité d'entreprise de Renault-Billancourt, qui était l'un des plus gros CE de France, 48 000 salariés quand j'y étais en 82. L'entreprise n'existe plus, le CE n'existe plus. Le patrimoine a été dispersé, vendu, cassé. Voilà. Donc il y a des entreprises qui ferment, et chaque entreprise qui ferme, c'est un CE qui disparaît. Hein. Première menace directe. La deuxième, eh ben, c'est toute entreprise qui délocalise en France ou à l'étranger. C'est la fin des CE, puisque dans les pays étrangers, il n'y a pas d'équivalent des CE. Or, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'entreprises qui délocalisent et qui, du coup, voient fermer les portes du CE. Il y a un troisième niveau de menace qui pèse sur les CE, c'est cette volonté européenne, même s'il a été un petit peu freiné avec le dernier référendum, mais il n'est pas impossible qu'un jour ou l'autre, au nom de l'exception justement qu'est la France, on dise, puisqu'on tire par le bas et pas par le haut, on dise la France et les salariés français disposent d'un privilège que n'ont pas les autres salariés, et à partir de là, on supprime les CE comme on supprime les services publics et comme on supprime tout ce qui constitue des acquis sociaux de ce pays. Donc on n'est pas à l'abri demain de décisions européennes qui, au nom de la libre concurrence entre les États, porteraient atteinte au CE. Et puis enfin, les CE peuvent être menacés, je dirais aussi, de l'intérieur, s'il n'y a pas un renouvellement, je dirais, de leurs actions culturelles, de leurs réflexions, de leur politique culturelle, sachant que depuis plusieurs années, il y a eu des mutations importantes dans le paysage social et culturel qui conduisent les CE, forcément, à se repositionner, c'est-à-dire à réinventer à nouveau l'avenir. Et je crois qu'une des grandes forces des CE a été, depuis 60 ans, de réinventer en permanence des solutions pour répondre aux besoins et à la demande des salariés. Et aujourd'hui encore, la question est posée de quelle activité culturelle émancipatrice, épanouissante et libératrice. Donc un mot sur, là, j'avais entraîné sur où on va, mais bon, il y a des menaces, mais on va résister à ces menaces comme on résiste sur beaucoup d'autres menaces, donc je suis quand même relativement confiant sur l'avenir, mais confiant à condition d'être lucide sur ces menaces. Il ne faut pas surtout dire on risque rien. Je crois qu'il faut traiter les différents niveaux de menaces que j'ai évoqués. Et en fait, la question d'où on vient, je crois que les CE... Il y a une histoire, bon, il y a les dates dont on a parlé puisqu'on fête les 60 ans, donc les CE ont 60 ans en 45, mais en fait ils sont nés en 3 sur 3 ans. Hein. Il y a un décret en 44, il y a une ordonnance en 45 et il y a un texte de loi en 46. Donc chaque année, enfin chaque décennie, on est un peu embêté pour savoir est-ce qu'on fête ça, est-ce qu'on fête 44, est-ce qu'on fête 45 ou 46, et en fait on a pris, enfin la CGT a décidé 45, parce que 45 c'est la première création des CE. Hein, car en 44, il n'y a pas de CE de créer. Il y a un décret qui permet la création de CE, il n'y en a pas. Dès 45, avec l'ordonnance, il y a des CE qui existent. Bon, donc du coup, ça paraît la date la plus concrète et la plus efficiente. Même si le régime aujourd'hui sous lequel vivent les CE, ce régime date de la loi de 46. Hein, donc c'est important de savoir qu'il y a un texte de loi qui a codifié depuis 60 ans. Il n'y a eu que deux exceptions en 82. Sinon, depuis, le texte de loi n'a pas été modifié et l'ECE aujourd'hui s'appuie dans le cadre de ces textes de loi de 46. Et donc il y a ces trois dates-là, 44, 45, 46, mais il y a avant tout une préhistoire qui est importante et qui est aussi une autre exception de ce pays et qui justifie l'existence des CE, c'est qu'en France, le syndicalisme, donc dès son origine, il s'est pour une part, et pour une part importante, construite en réaction au patronat sur les questions sociales et culturelles. Et ça, c'est aussi une singularité profonde en France, parce que le patronat en France, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer, le patronat en France, dès qu'il sait, enfin le grand patronat, des grosses entreprises, métallurgie, sidérurgie, les mines notamment, dès qu'il s'est constitué en France, il a pour laisser sur place une main-d'œuvre et la qualifier, il a mis en place tout un réseau d'œuvres sociales patronales. Et ça a duré un siècle, donc c'est quand même pas rien. Et donc de 1845, qu'est l'apparition des grosses entreprises capitalistes, enfin pré-capitalistes de l'époque, dans chaque grande ville, le patronat gérait, en dehors du travail, donc de ce qui se passe en travail, il gérait l'ensemble de la vie des gens. Donc ça passait par les mutuelles, les caisses de santé, les écoles d'apprentissage, les logements, les corons et cités minières par exemple. L'épicerie du village était tenue par le patron, le théâtre était un théâtre payé par le patron, les stades de foot appartenaient à l'usine, et il y a encore des traces, puisque le stade de Saint-Étienne, par exemple, le stade de Geoffroy Guichard, appartient à la famille Geoffroy Guichard, qui est propriétaire de l'usine, enfin l'entreprise Casino d'alimentation, et le stade de Sochaux, le stade Peugeot, appartient toujours à la famille Japy, qui est la famille qui patronne de Peugeot. Donc les villes portent encore les traces de cette présence patronale très forte qui prenait l'ouvrier de la naissance jusqu'à sa mort. Et il y a des écrivains comme Eugène Deschamps, qui est un dirigeant de la CFTC, qui a écrit que chez De Vendel, on naissait de Vendel et lorsqu'on mourait, la couronne était une couronne de Vendel. Il n'y a pas d'autre moyen pour des ouvriers que d'échapper à cette mainmise-là. Sur l'éducation, qui était une éducation de métier, l'école d'apprentissage. Et en France, le syndicalisme, il a contesté cette mainmise patronale et il a créé progressivement ses propres structures. Le syndicalisme a créé ses mutuelles familiales des travailleurs, mutuelles des travailleurs. Il a créé ses propres coopératives et puis progressivement, il a créé des lieux, des centres de loisirs, des centres d'éducation. Il a créé ses cliniques, ses polycliniques. Et le point d'orgue de cet investissement de la CGT sur les questions sociales et culturelles, c'est entre 34 et 36. Et en 36, la CGT, notamment celle des métaux, dispose d'un patrimoine d'œuvres sociales qu'elle gère en direct. La CGT gère en direct en 36 une polyclinique des métaux à Paris. Elle gère à Vouzeron dans le Cher un sanatorium. Elle gère à Bayeux un centre de loisirs pour les métallurgistes. Elle gère un aéroclub pour les métallurgistes. La CGT produit des films, la Marseillaise, et la CGT elle-même donc a contesté au patronat cette mainmise en 36. Donc les CE sont héritiers de 36. Puisqu'en 36, ils étaient dépositaires de tout un tas d'œuvres sociales et culturelles dont ils étaient les propriétaires et les acteurs. Et ça a duré un an, cette quête. Et puis il y a eu la guerre, et dans la résistance, à nouveau, seconde étape dans la création des CE, c'est tous les contacts qui se nouent entre ouvriers et intellectuels et artistes qui combattent l'occupant fasciste et qui créent des liens qui vont aboutir à la libération, à la création de mouvements d'éducation populaire importants comme Travail et Culture, Tourisme et Travail, les CMEA, Léo Lagrange, qui vont jouer un rôle important dans l'avenir culturel national. Et pendant la résistance, il y a donc, vous savez, donc la création du CNR, du Conseil national de la résistance, qui est chargé d'élaborer le programme appliqué dès la libération de la France. Ce programme sera appliqué partiellement, enfin pas mal au début, puis après un peu partiellement, et il prévoit tout un tas de mesures qui sont nationalisation des banques, par exemple, la création de la sécurité sociale en 1945, tout un tas de mesures sociales, et la création des comités d'entreprise. Et donc, dès que la France est libérée, on applique, donc on nationalise les banques, on nationalise Renault, par exemple, puisque le Renault avait collaboré avec la... On crée l'énergie donc avec la création du statut entreprise EDF-GDF et le statut de la CCAS. Et puis, il y a la création de tout un tas d'autres activités, charbonnage de France. Et donc, les CE sont créés dès 45. Et donc, ils sont le fruit à la fois d'une volonté syndicale profonde de s'affranchir des tutelles patronales et de créer pour les syndicats des œuvres sociales dont ils sont les acteurs, pour les ouvriers, et puis une volonté politique de 36 et de 46 de confier à ces salariés qui ont fait la preuve de leur capacité de gérer des œuvres, on leur confie la gestion dans l'entreprise des œuvres sociales et culturelles. Et donc on en est toujours là, 60 ans après, avec une histoire extrêmement riche dont on pourra parler, je pense, tout à l'heure.
Bernard Bret vient d'arriver, de nous rejoindre. Donc il est président de la CMCS de Bordeaux, de la Gironde. Donc à partir de l'intervention de Jean-Michel, on voit bien qu'il y a plusieurs entrées possibles dans ce débat. Il y a un des éléments, c'est l'intervention dans la gestion des comités d'entreprise. On voit avec les difficultés que les copains pourront évoquer. Et... la dimension des enjeux de la politique culturelle que les comités d'entreprise peuvent, mènent, ont des difficultés à mener, avec toujours cette démarche dont parlait progressiste, dont parlait Jean-Michel. Pourquoi un comité d'entreprise a la responsabilité politique, entre guillemets, de développer une politique culturelle? Pourquoi faire? À quoi ça sert? Avec toujours, dans l'état d'esprit de la création des comités d'entreprise, créer les conditions pour que les salariés de l'entreprise s'emparent des enjeux à la fois de l'entreprise, mais plus généralement des enjeux de la société, dans la mesure où ce qui nous guide, c'est de créer les conditions afin que les hommes et les femmes qui travaillent puissent s'épanouir, et, acquérir des connaissances et découvrir d'autres visions du monde. Donc ça, ce sont des enjeux qui sont posés aujourd'hui au comité d'entreprise. Alors, on a autour de la table des comités d'entreprise, deux gros comités d'entreprise, avec le CER et la CMCAS, et la CONEX, qui est donc les transports urbains de Bordeaux, qui est un CE déjà de moindre taille, avec, de mon point de vue, mais là, le débat pourra y venir, des approches, des réalités qui peuvent être différentes, y compris dans le rapport direct aux salariés dans les entreprises. Donc ça serait intéressant de que les copains nous disent un peu comment ils vivent ça. Moi, j'aurais envie de poser une question ou deux questions d'entrée. On va faire un tour de table. Première chose, 60 ans après la création des comités d'entreprise, où en est-on aujourd'hui de l'intervention, par exemple, dans la gestion? Comment ça se passe? Où en est-on de la politique culturelle? Quelle démarche? Quelle stratégie? Et peut-être une troisième question subsidiaire. Tout à l'heure, Jean-Michel faisait référence à la volonté des comités d'entreprise d'avoir une stratégie dans la gestion des comités d'entreprise qui ne soit pas celle du libéralisme, donc du profit, mais en même temps dans une société libérale. C'est-à-dire qu'à la fois dans le comité d'entreprise, on peut développer des activités avec une démarche qui n'est pas celle de faire du profit à partir de ses activités, mais en même temps, on se retrouve dans une société libérale qui fonctionne sur ces bases-là, et à un moment donné, comment ça se gère? Avec des difficultés parfois, donc ça peut être intéressant aussi d'avoir un échange sur ces questions-là. Donc, la parole à...
Ouais, bonjour à tous. Donc nous, c'est pour les cheminots, ça ne va pas être 60 ans après, puisque c'est 20 ans après... On est tout jeune CE. C'est un CE que les cheminots se sont gagnés en 86. D'abord en 83 avec le changement de statut de l'entreprise, qui est devenu un établissement public, industriel et commercial, qui nous a permis de créer des CE et qui ont vu leur aboutissement en 86 avec l'arrivée de la gestion des activités sociales. Donc on était, nous, en 86, dans le profil que donnait Jean-Michel tout à l'heure, c'est-à-dire une vie culturelle dans l'entreprise qui existait, qui était effectivement dirigée, façonnée par la direction SNCF. Alors il y avait déjà un certain nombre de choses que l'on n'avait plus, hein, les économas, etc. qui avait déjà disparu. Ceci étant, il y avait des bibliothèques de manière importante dans l'entreprise qui restait, une vie associative culturelle, je parle de peintres, de théâtre, musique, particulièrement importante, et donc dans lequel on essayait par ce biais-là de rentrer, de s'intégrer. Donc en 86, nous, on a récupéré la gestion des activités sociales. Et donc, on a commencé effectivement à réfléchir et à essayer de mettre en place une autre politique culturelle que ce qui pouvait se faire avant. Avec l'idée de base, c'était que, à partir de là, amener les agents, donner les moyens aux agents à la fois de se détendre, d'avoir un lieu dans l'entreprise où effectivement ils pouvaient sortir du travail et pouvoir se détendre après le travail, prendre un temps où ils apprennent, où ils lisent, où ils découvrent, où ils façonnent des choses, et en même temps un moyen de les amener effectivement à réfléchir sur ce qui, sur la politique menée par la direction de l'entreprise et sur ce qui effectivement les enjeux économiques de l'entreprise. Donc à partir de là, nous on s'est appuyé sur tout un réseau associatif qui existe encore, qui est vivant, avec des associations qui sont partout sur notre région. Donc nous on est sur Aquitaine, Poitou, Charente, donc on a des associations qui sont à la fois sur Bayonne, Hendaye, Bordeaux, Périgueux, enfin partout jusqu'à Châtellerault, et qui essayent d'intervenir dans l'entreprise et en même temps auprès des voyageurs par des expos, etc. Un gros travail sur l'écriture que l'on a lancé, parce qu'effectivement on s'est rendu compte que l'accès à l'écrit et l'accès à la lecture n'était pas forcément évident. Il y a 2 ans, lors de la semaine de la femme que l'on a organisée autour du 8 mars, on avait demandé aux femmes cheminotes, qui ne sont pas nombreuses, de s'exprimer sur leurs conditions de travail par le biais de l'écriture. Sur comment on vit dans l'entreprise, ce que l'on a envie de faire. Et on s'est rendu compte que ça devenait très difficile à écrire, à exprimer par l'écrit, et qu'il y a eu derrière besoin d'avoir des gens qui tenaient le stylo pour leur permettre de s'exprimer. Donc on commence à travailler un peu sur ça, de manière à ce qu'effectivement les gens réussissent à prendre le stylo, à écrire, etc. Donc par ce biais-là, on a travaillé sur d'autres choses, au niveau du polar, où on a demandé aux agents d'écrire des nouvelles, où on est en train d'écrire un livre sur les anciens ateliers de Bordeaux, où ce sont des cheminots, à la fois actifs et retraités, qui sont venus travailler sur le contenu du livre, qui n'ont pas forcément écrit, mais qui ont fait un travail d'archive, etc. Donc par ce biais-là, on essaie de les faire rentrer un peu sur une culture qui les arriverait à créer et à retraduire auprès de leurs collègues ou de leurs des familles et des retraités. Donc tout ça en même temps, en continuant à réfléchir, parce qu'on n'est pas effectivement, on n'a pas forcément la bonne réponse, en tout cas c'est celle-là qu'on a réussi à trouver au niveau de l'accès à la culture, mais on continue effectivement à réfléchir à chaque fois que l'on fait des initiatives, à ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas pu fonctionner, de manière à effectivement travailler à la fois à élargir au plus grand nombre, parce que c'est quelque chose effectivement de pas évident, on part au départ d'un petit noyau, pour réussir à élargir à d'autres, mais c'est jamais simple dans une entreprise d'accéder à la culture. Et donc on essaie petit à petit d'avancer. Voilà, donc c'est pas fini, même 60 ans ou même pour nous 20 ans après, ça avance petit à petit et rien n'est terminé aujourd'hui. Voilà.
Merci, bonjour à tous. Donc, en fait, moi, je suis représentant de la CMCS et donc, par la même occasion, de la CCS. Ici même, dans un débat qui concerne les comités d'entreprise, tout en n'étant pas comité d'entreprise. Alors, la CCS et les CMCS ne sont pas des comités d'entreprise. Alors, c'est pas pour être différent de mes collègues et camarades, c'est parce que c'est différent, forcément. La différence fondamentale se situe dans la responsabilité de la gestion. C'est-à-dire que dans les comités d'entreprise, la présidence, c'est l'employeur, et le secrétariat et les acteurs, responsabilité des activités incombent aux représentants du personnel. La CCAS et les CMCAS sont dirigés par les seuls représentants du personnel. la direction est exclue de la gestion. Ça, c'est la réalité aujourd'hui, qui est toujours un combat, puisque à différents niveaux, les directions, les gouvernants n'ont pas abandonné leur volonté, leur obsession de regagner justement cette gestion. Donc, ça, alors après, on a des prérogatives qui sont différentes. Le comité d'entreprise aborde un certain nombre de questions relatives à la gestion de l'entreprise. Nous, CCAS et CMCAS, nous n'avons aucune prérogative dans la gestion de l'entreprise. Voilà, on a assez de notre propre gestion, d'ailleurs, à ce niveau-là. Voilà, donc ce sont les différences fondamentales, je ne rentre pas dans les détails. La nationalisation de l'électricité et du gaz en avril 1946, ont suivi les décrets qui ont instauré le statut des personnels, et du statut des personnels, qui est un statut publié par décret, c'est donc une loi, ce n'est pas une convention collective, hein. Différence fondamentale également. Ce décret de loi prévoit dans ses articles 25 et 23 la gestion des œuvres sociales, article 25 je crois, et article 23, la gestion des mutualistes. Alors, aussi particularité en ce qui nous concerne, donc CCAS, pour que tout le monde s'y retrouve, c'est Caisse Centrale d'Activité Sociale, qui a des responsabilités nationales dans quatre domaines, les vacances, notamment la restauration méridienne, la santé et les assurances. Alors les assurances, ce n'est pas pour faire concurrence au secteur assurantiel, c'est un système de solidarité assurantielle qui a été prévu à l'époque par le législateur pour compenser certaines carences, puisque le statut comprend un certain nombre de carences, n'allait pas assez loin en termes progressistes dans un certain nombre de ces avantages. Voilà. Donc les CMCAS, ce sont des structures locales, peu ou proches par département, qui ont une responsabilité dans les activités sociales de proximité, culture, sport, loisirs, enfin tout ce qu'on peut imaginer, et puis des prérogatives mutualistes. Donc mutualiste au sens section de sécurité sociale, c'est-à-dire quand les caisses d'assurance maladie le font, la part obligatoire et également la part complémentaire qui est alimentée par les cotisations sur les agents et la contribution des employeurs. Voilà en gros quoi. Je ne sais pas si je suis très clair, mais j'essaie d'être le plus clair possible. Bon, ces prérogatives, bien évidemment, font des envieux, quoi. On n'est pas exempt depuis l'origine d'attaques diverses. D'ailleurs, je rappelle que pendant une quinzaine d'années, le CCOS, qui est prévalu à la création de la CCS, qui a précédé, pardon, la création de la CCS, la gestion avait été confisquée par le législateur aux organisations représentant des organisations syndicales et du personnel. Et pendant cette époque-là, ils en ont profité pour vider une partie des avantages que la loi de 1946 nous avait permis, et le rapport de force, et la loi et le rapport de force de l'époque nous avaient permis d'engranger. Donc c'est là, pendant cette période, qu'avait été créé le comité de coordination des CMCS, notamment, à qui on avait confié la répartition de la subvention qui permet le fonctionnement, le fameux 1% sur les ventes d'énergie, puisque ça aussi c'est une spécificité CCS, on n'est plus sur un pourcentage de la masse salariale pour fonctionner, on est sur un pourcentage du chiffre d'affaires de l'entreprise, hein, des entreprises concernées. Voilà. Donc cette période-là, les tenants, les directions et les pouvoirs publics, les gouvernants, avaient confisqué d'une certaine manière encore plus les prérogatives qu'ils avaient été obligés de concéder quelques années auparavant. Alors là aussi, heureusement, le mouvement syndical, les salariés, par leurs actions, au fil des années, ont réussi à reconquérir un petit peu la direction de ces organismes. Si bien qu'aujourd'hui, le comité de coordination des CMCAS est l'émanation du vote des électriciens et gaziers sur des candidats présentés par les seules organisations syndicales. Donc nous avons repris également, en quelque sorte, le personnel a repris la direction de la répartition de la subvention qui nous est allouée. Voilà. Alors, bon, je ne rentre pas plus dans les détails, s'il y a des questions, après on pourra y venir. Sur la question culturelle, voilà, donc d'abord, je rappelle que la CCAS est depuis de longues années engagée dans UZEST musical, est un des partenaires d'UZEST. UZEST qui aussi a contribué à alimenter le débat, je dirais, sur les orientations qui sont prises depuis ces quelques années concernant l'électricité et le gaz. Hein. En février 2000, l'ouverture du marché à la concurrence. UZEST avait contribué, je m'en souviens, à une manifestation avec la compagnie donc qui avait permis vraiment de centrer et d'attirer l'attention sur l'importance de ces décisions qui étaient prises. Cette évolution-là n'a pas remis en cause d'ailleurs le statut hein, pour l'instant et la CCAS et les CMCAS. Donc le combat des électriciens et gaziers n'a pas été vain dans le domaine du service public d'une part et dans le domaine de leurs avantages à ce point de vue là également. Et donc nous poursuivons parce que nous contribuons effectivement à faire autant que c'est possible, à faciliter l'expression sous toutes ses formes, et notamment telle qu'elle est dans ce festival, hein, avec son originalité, sa spécificité, c'est moi qui le dis, hein, ça n'engage personne, son contenu progressiste, hein, certainement. Enfin, toutes ces choses-là qui nous font contribuer et à faire en sorte que toujours la découverte de personnes, de créateurs, d'artistes, etc., que ailleurs ils ne pourraient pas s'exprimer, dans les conditions où ils s'expriment ici, etc. Enfin, tout ça, comme on le fait dans d'autres lieux, nous permet donc d'amener notre pierre et de contribuer donc à faire en sorte que cet élément important, la culture, puisse aider en quelque sorte le service public et le contenu social du statut des personnels de l'électricité et du gaz. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Donc, c'est dans nos orientations de structure, hein. Donc l'émancipation, le contenu de nos activités. Quand les centres de vacances, par exemple, nos centres de vacances, les directeurs qui dirigent l'encadrement d'un centre de vacances, on a un projet éducatif. Un projet éducatif qui est initié au début sur des orientations syndicales, de tous les syndicats. Hein. La CGT est majoritaire, mais tous les syndicats participent au débat sur quel projet éducatif pour les... c'est la même démarche pour l'ensemble des responsabilités que nous avons. Quoi. Donc le contenu de nos activités n'est pas un contenu fade, inodore, on ne fait pas dans le commerce pour faire dans le commercial, et on n'est pas non plus... parce que je me défends et nous défendons ces choses-là sur un endoctrinement. Quoi. Le problème, c'est à partir de ce que nous sommes, qu'est-ce qu'on peut créer, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre et en faire profiter autant donc, les ouvrants droits, les bénéficiaires, dans ces bénéficiaires, y compris les jeunes que nous accueillons. Nos centres de vacances adultes, c'est pareil, il y a des projets de sites, du travail qui se fait avec les communes, avec les comités, avec d'autres comités d'entreprise, y compris des partenaires étrangers, etc. Donc nous sommes dans cette démarche émancipatrice hein, qu'on retrouve dans un certain nombre d'activités sociales, et y compris et surtout dans le domaine de la culture. Nous avons un budget, alors on peut aussi chiffrer, évaluer ces choses-là aussi, c'est pas le seul élément de mesure, mais les budgets que l'on accorde à la culture sont des budgets extrêmement importants. Au moins autant dans certains endroits, c'est un petit peu le cas en Gironde, que dans le domaine du sport. Ailleurs, c'est. Voilà, donc nous essayons de maintenir ces acquis qui nous semblent et de les faire évoluer. Ce n'est pas pour se cramponner ce que tu disais tout à l'heure, je suis complètement d'accord avec toi. Notre objectif également, c'est que nos activités sociales et mutualistes évoluent au fur et à mesure qu'évolue la société, qu'évoluent les entreprises, qu'évoluent les besoins des électriciens et gaziers de leur famille.
Alors Alain Thomas, c'est un comité d'entreprise qui n'a pas la même taille et la même envergure que ces autres, que les deux gros là.
Oui, bonjour à tous. Alors nous, la particularité, c'est que nous sommes un comité d'entreprise d'une entreprise privée de chez privé, telle qu'on les connaît bien aujourd'hui. Moi, ce que je dirais, c'est que d'abord, le CE, c'est un outil syndical au service de l'intérêt des salariés. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est bien la philosophie syndicale qu'on peut développer auprès des salariés dans le temps qui peut amener à la gestion d'un comité d'entreprise. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour nous, puisque nous sommes des jeunes gestionnaires, puisque nous gérons ce CE que depuis 7 ans. Pourquoi je dis un outil syndical ? Parce que, quelque part, en fait, ce CE que nous avions était un CE vraiment, je ne veux pas être trop pessimiste, mais avec beaucoup de collaboration. Conex, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est CGFTE, quoi, les transports en commun de la communauté urbaine de Bordeaux. Dans les années 70, même jusqu'à 80 et même jusqu'à 85, a vu dans son personnel, où les salaires étaient assez bas, les conditions assez mauvaises, a vu dans son personnel beaucoup de gens issus du monde agricole qui étaient en difficulté dans ces années-là pour faire vivre la famille avec les petits lopins de terre et qui ont été obligés, pour beaucoup d'entre eux, de trouver un deuxième emploi sans abandonner le premier emploi qui était la culture agricole ou viticole du petit lopin de terre. Ce qui fait qu'on a trouvé des salariés qui n'étaient pas forcément revendicatifs, puisque la recherche, elle était d'un complément de salaire. Et donc, l'entreprise s'est bâtie un petit peu sur ce côté-là. Et l'ECE a bien suivi un petit peu cette tournure-là. Ce qui fait que pas trop de revendicatifs et beaucoup de laisser-aller. Et ce qui a amené, d'ailleurs, y compris certains détournements dans cette gestion. Donc nous, ce que nous avons vécu quand nous avons pris ce CE, ben c'est reconstruire et pour beaucoup de choses construire. Une chose qu'on a, si on veut parler au niveau culturel ou émancipateur, une chose qu'on a rencontrée, c'est bête à dire, mais ça monte même de plus en plus, c'est l'illettrisme. Contrairement à ce que l'on peut penser de l'extérieur, beaucoup de gens dans les entreprises, dans les salariés, ont des difficultés, je crois que ça a été abordé tout à l'heure par Céline, ont des difficultés dans l'écriture et dans la lecture. Donc il y a des choses à faire, et je crois que c'est aussi de notre rôle, de pouvoir permettre aux gens de pouvoir évoluer, s'émanciper, notamment dans la culture, mais à partir du moment où ils pourront aborder et évoluer dans cette culture. Alors, pour cela, on a quand même quelques difficultés parce que je pense que les besoins des salariés sont à regarder de près. Et si on regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui manque aux salariés ? Ben, c'est du fric. C'est du fric pour vivre. Aujourd'hui, certains sont en train de supprimer les superflus alors qu'il y a longtemps que beaucoup suppriment de l'essentiel. Donc quand on en parle avec les salariés, ben, eux, ce qu'ils veulent, c'est que, à la limite, je vais schématiser, on prend mes propos entre guillemets, ben c'est qu'on prenne la manne financière du CE, qui en l'occurrence n'est pas très élevée, puisque un gros CE comme nous n'a que 1,38% de la masse salariale pour ses activités sociales. Entre autres, on a réussi à la faire augmenter un petit peu en 98 sur une lutte lors de la Coupe du Monde. Mais bon, on était à 1,38, donc ça représente que 700 000 euros. Je veux dire, bon, et pour 2040 salariés. Donc vous voyez que c'est pas quelque chose de très très élevé. Et bon, les salariés, ben, ça serait de prendre cette manne financière et puis de la diviser pour dire d'avoir un petit peu de fric en plus, quoi. Donc il faut qu'on recherche, à partir de là, il faut que l'on recherche des éléments culturels et émancipateurs qui vont leur permettre d'y rentrer sans distribuer l'argent comme ça, tranquillement. Ça amène donc une réflexion qu'il faut qu'il soit le plus collectif possible, et c'est peut-être ce qui peine aujourd'hui dans les entreprises, le plus collectif possible. Il faut savoir quand même que, enfin, je ne sais pas si les chiffres ont beaucoup changé, que dans ce pays, 50% des entreprises de plus de 50 salariés n'ont pas de CE. Et que dans ces 50% qui en ont, 50% sont des élus indépendants. C'est-à-dire sans organisation syndicale, sans l'outil syndical dont on a besoin, que ce soit dans la gestion économique de l'entreprise, comme dans la gestion des activités culturelles et sportives, parce qu'il faudra peut-être qu'on en parle aussi. Donc ce qui veut dire, d'ailleurs ils ne sont pas si indépendants que ça, parce qu'ils dépendent bien de quelque chose. En fait, ils dépendent bien du patronat. Parce que difficulté à avoir une réflexion collective, parce que la réflexion collective, pour moi, elle doit aller beaucoup plus loin que l'entreprise, mais elle doit aller vraiment dans la société et en ce qui nous concerne dans le monde syndical. Alors que ce soit sur plusieurs organisations syndicales ou sur une seule. Moi, je parlerai pour une seule pour l'instant parce que bon, j'évolue dans une organisation syndicale qui a fait qu'aujourd'hui, nous en sommes gestionnaires. Donc, cette réflexion collective la plus large possible, mais en même temps, une mise en œuvre collective la plus large possible. Et là, aussi, on peut trouver qu'on a rencontré des difficultés sur la mise en œuvre, parce que c'est bien beau de prendre des décisions, mais après, il faut les mettre en œuvre. Et je prendrai pour exemple, parce que je voudrais pas être trop long, mais je prendrai pour exemple, à partir des besoins des salariés, le côté sportif, qui est en train de reprendre un petit peu de l'ampleur dans la réflexion. Aujourd'hui, l'entreprise, avec un beau CE qui n'a aucune structure, peut faire comment pour développer le sport à l'entreprise? Eh bien, c'est pas demain qu'elle aura un terrain de foot ou un gymnase, parce que ça va pas être facile, et la lutte, faudra qu'elle soit dure pour qu'une entreprise arrive à financer des structures de cette nature-là. Donc, qu'est-ce qui va rester à l'entreprise si développer le sport, c'est payer une licence dans un club Lenda, bien que j'ai rien contre tous les clubs qui peuvent exister, parce que bon, bien souvent ils sont associatifs et ils ont un petit peu une orientation d'émancipation et de regroupement des individus. Ceci étant, on est loin de développer le sport à l'entreprise. Donc à un moment donné, ça marche pour les structures qui existent, mais d'arriver à avoir une mutualisation, et là je crois qu'on a beaucoup à travailler, et donc la réflexion collective, elle est bien en dehors de l'entreprise. Eh bien, inter-entreprise, inter peut-être un syndical, mais surtout inter-entreprise, et pour pouvoir fonctionner dans ces structures-là. Mais deuxièmement, et c'est quelque chose qui nous anime depuis toujours, peut-être parce que justement nous sommes issus de cette organisation syndicale qui a lutté tout à fait en bas pour arriver à obtenir quelque chose, je crois que dans toutes les entreprises, justement, où il n'y a pas de CE, et je m'arrêterai aux entreprises de moins de 50 salariés, comme ça, c'est clair, il n'y en a pas, parce que le Code du travail ne l'oblige pas, et donc il est difficile de le gagner quand déjà c'est pas obligatoire. Donc je m'arrêterai à toutes ces entreprises-là de moins de 50 salariés, où déjà il est difficile d'avoir un outil syndical, donc pas de lutte, donc un individualisme complet, des conditions de travail et de salaire un peu au ras des pâquerettes. Et à côté de cela, il y a l'entreprise organisée, avec un CE, avec un budget, avec quelques fonctionnements, avec de la lutte à l'intérieur, puisqu'il y a outil syndical qui permet de pouvoir travailler à lutter pour obtenir, et donc des conditions différentes. Et on dirait que ce salariat, qui représente plus de 50% du salariat aujourd'hui en France, n'aurait pas accès à cette culture en général. Et bien moi je trouve que c'est dommage et qu'on a beaucoup à travailler à pouvoir impliquer tous ces salariés et leurs familles dans cette émancipation. Pourquoi ? Parce que d'abord, ben, je trouve que tout salarié, quel qu'il soit, a droit à pouvoir avoir accès. Et deuxièmement, parce que en créant les conditions de pouvoir ouvrir les yeux à ces salariés sur d'autres possibilités que celles qui vivent de courber les chines, eh bien, peut-être qu'on peut arriver aussi à créer les outils dans ces entreprises-là qui permettront de pouvoir avancer.
Voilà, je crois que c'était intéressant déjà de refaire un peu le point de la réalité des comités d'entreprise aujourd'hui. Alors moi, voilà, l'entrée qu'on a choisie, c'est donc où en sommes-nous de la politique culturelle que peuvent mener les comités d'entreprise. Donc en gros, et l'art dans tout ça. Où en sommes-nous? Parce qu'on peut parler de, par exemple, les questions culturelles, l'accès à la culture. Bon, ce sont des génériques un peu vastes. Alors, on peut refaire le débat qui n'en finit pas sur c'est quoi la culture, machin. Bon, ça, on peut. Mais on va essayer de serrer un peu plus le sujet, à mon avis. Dans une société qui considère globalement que la culture est un vecteur d'intégration des salariés à un système, on voit bien les dangers sur la massification, sur bon, je parle pas, sans parler de la télé, quoi, une culture qui fait pas penser, mais qui fait passer, c'est-à-dire voilà, attendez, calmez-vous, ça va aller, détendez-vous, machin, etc. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on propose d'autre? Quel autre rapport on a à la culture, à l'art? Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut attraper cette dimension-là. Et moi, je pense qu'UZEST, par rapport à ça, nous a beaucoup aidés. Y compris à nous décloisonner un peu, quoi. Ou avoir un champ de vision qui s'ouvre différemment. Comment fait-on dans une société qui est massivement empreinte d'une conception de la culture qui est là pour faire passer la pilule à autre chose qui fait penser, qui dérange, qui nous confronte à nous-mêmes. Donc ça, c'est pas facile. Et alors, j'aurais une question, même un peu, comment dire, provocatrice. Dans un comité d'entreprise qui est donc confronté à un moment donné à des élections, ça, on peut l'avoir d'ailleurs dans un comité d'entreprise, mais on peut l'avoir aussi dans une municipalité, dans un conseil général, un conseil régional, etc. Est-ce qu'on vise la massification ou où en sont les gens? Partir des besoins, disons-nous, ok, d'accord. Et si on propose autre chose, est-ce qu'on ne va pas être en décalage et se faire ramasser aux élections, par exemple? Donc, à un moment donné, est-ce qu'on n'aurait pas la tendance à tomber dans une espèce de clientélisme qui nous amènerait à dire, bon, on ne va pas faire trop fort là-dessus parce qu'on risque de se faire ramasser la gueule, quoi. Bon, hein, je le fais exprès comme ça à la serpe, bon. Mais en même temps, voilà, ces questions-là sont posées. Alors, là-dedans, ça nous ramène à nos responsabilités, là, d'élus dans les comités d'entreprise, qui sont liés, comme le disait tout à l'heure Alain Thomas, à une organisation syndicale, pour un certain nombre d'entre eux. Donc la question n'est pas d'imposer, mais de créer les conditions de rencontres nouvelles. On a souvent ce débat, par exemple, quand on aborde cette question-là, de copains qui disent ben ils veulent de l'Euro Disney. Ou ils veulent de... Comment ça s'appelle le truc là, de Villiers là? Le Puy du Fou. Voilà. Donc les mecs, ils vont au local du CE, ils prennent des billets. Parce qu'en même temps aussi, il y a cette question-là. La question de la billetterie. Et après, autre chose. Mais quand je pose ces questions-là, c'est pas pour... c'est pas des jugements de valeur, mais c'est... Bon. Donc à partir de là, des copains disent « Oui, mais c'est ce que les gens veulent. » Ok. Mais notre responsabilité, est-ce qu'elle n'est pas justement de mettre à disposition, de proposer d'autres visions, d'autres aspects de la création que souvent les salariés considèrent qu'elles ne sont pas faites pour eux? Et d'ailleurs, pendant des années, on leur a dit que c'était pas pour eux. On leur a confisqué un aspect de la création de l'artistique en disant ouais, « ça c'est pour les tronches, les élites, vous êtes un peu trop cons, donc bon, en gros, vous allez au Puy du Fou, quoi. » Voilà. Hein. Donc, quel travail on va faire? Parce qu'on sait en même temps que c'est très, très difficile, que c'est pas spontané. Quand on dit, par exemple, répondre aux besoins des salariés, mais il n'y a pas de spontanéité en la matière. Sinon, on n'est pas là pour argumenter, pour accompagner. Alors, il y a eu quelques fois à l'époque, et ça se fait encore aujourd'hui, notamment ce que font les copains cheminots au travers de la lecture avec une personne qui va sur les chantiers avec les bouquins, etc. Il y a des choses qui se font. Comment on accompagne, comment on crée des liens, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de spontanéité. Alors, il y a eu des périodes où il y avait des artistes qui étaient mis en résidence dans les entreprises, dans les grosses boîtes. On prenait des artistes, ils venaient pendant un mois, 15 jours. On mettait à leur disposition les moyens de faire une création. Il y avait des rencontres à la bibliothèque avec des écrivains, avec des plasticiens, etc. Bon. moi, j'ai un peu tendance à partir de ce que je peux voir, mais je ne vois pas tout, qu'il y a des choses qui ont reculé un peu, ça, par rapport à quelques années. Et je pense que c'est des enjeux dont il faut échanger, parce que je pense en même temps qu'on ne pourra pas, à partir de ce qu'on porte, nous, sur l'idée de la transformation de la société telle qu'elle est, etc., on ne pourra pas faire l'économie de se poser ces questions, y compris du rapport à l'art, à la création, parce que ce sont des visions, d'autres visions du monde qui s'ouvrent et qu'elles nous font après déclencher sur qu'il y a d'autres possibles. Et je pense que, pour ma petite part, personnellement, que c'est aussi une responsabilité syndicale. Donc voilà, il y a une question qui est posée. Après, on vous renverra, on est un peu bavard ici. La clientélisme ou pas en matière culturelle ?
Je veux bien me risquer, mais moi, je le présenterai pas sous cette forme-là, bien évidemment, quoi. Mais la contradiction, elle se trouve là, elle se trouve ailleurs, elle se trouve également dans la gestion, quoi. Qui n'a sa vie n'a pas un comportement contradictoire. Bon, il existe là, il existe dans le mouvement syndical. Dans la gestion, il y a aujourd'hui des comités d'entreprise qui sont obligés de se séparer d'un certain nombre de biens, parce que ça ne correspond plus à des besoins d'aujourd'hui. Donc ils se séparent de biens, il y a des salariés qui étaient prévus sur ces biens qui sont obligés de réduire et de prendre des mesures sociales par rapport aux salariés qu'ils avaient. Il y a tout ça qui rentre. Et en plus, on est des élus, on est des syndicaux, des représentants syndicaux. On est des militants syndicaux. Donc on a effectivement à gérer ces contradictions. Alors après, effectivement, comment ça se passe dans la réalité ? Ce que tu disais par rapport au Puy du Fou, à la CMCS Gironde, on a connu ça pendant des années, où il y avait, y compris dans l'organisation syndicale, un barrage sur ce genre d'activité. On dit, c'est pas dans nos orientations et vous n'y avez pas droit. Aujourd'hui, on dit les choses un petit peu différemment, parce que les salariés ont évolué, le mouvement syndical a évolué par rapport à ça, le mouvement syndical a évolué, la réflexion est différente, et après tout, on s'est aperçu aussi qu'ils allaient voir Euro Disney ou le Puy du Fou par d'autres moyens. Donc, s'ils vont là par d'autres moyens, est-ce que nous, on ne peut pas proposer la finalité peut-être d'aller voir ce genre de spectacle, mais en amont ou après d'y mettre un autre contenu, un débat sur le thème par exemple de ce que l'on va aller voir. Euro Disney, on a enclenché une opération, je me rappelle, il y a 2 ans, où un certain nombre de collègues venaient nous voir, on veut aller Euro Disney, on veut aller Euro Disney. On a dit, ben, on va aller Euro Disney. Vous voulez aller Euro Disney, on a lancé le truc Euro Disney. Finalement, on s'est aperçu qu'après discussion, on a eu 20 inscrits sur une population de 18 000 bénéficiaires. Et le projet n'a pas été tenu. Le projet n'a pas été tenu comme d'autres n'ont pas tenu quand on arrive à ce niveau de participation. Et on y a appliqué une participation de la subvention du comité d'entreprise qui était celle que l'on applique dans ce type de manifestation. La préparation, à l'inscription a été initiée autour d'un certain nombre de discussions où il n'y a pas eu l'a priori de fermer la porte à ce type d'activité. Alors effectivement, on peut aussi déboucher sur des activités, je dirais, consuméristes également. Bon, peut-être que Alain y viendra, mais je sais qu'il a des responsabilités dans ce domaine, sur ce qu'on appelle les systèmes de billetterie. Billetterie qui permettent pour les salariés, avec des réductions, puisqu'on est groupé, on est un gros comité d'entreprise, ou plusieurs, on est groupé, donc on peut avoir des réductions sur un certain nombre de spectacles. Et dans ces spectacles, effectivement, il y a de tout. Est-ce que pour autant, parce qu'on est représentant du personnel, parce qu'on a des orientations syndicales à défendre, est-ce qu'on peut s'interdire ce genre d'approche ? Donc la réponse est non. On ne se l'interdit pas aujourd'hui. On répond à un besoin, même si ça ne nous empêche pas de discuter sur un certain nombre de ces spectacles, sur leur contenu, et d'avoir des débats, pas aussi nombreux qu'on le souhaiterait, pas aussi nombreux qu'on le souhaiterait. C'est un moment peut-être d'échange sur ces questions-là, d'ailleurs, par rapport au contenu. Mais à la limite, si on décidait pour les autres aussi, ce que je disais tout à l'heure par rapport au dogmatisme, on serait dans le dogmatisme et l'endoctrinement. Et donc, on n'est pas sur ces conceptions-là. Si on a des activités sociales, on n'est pas dans l'époque où, à deux ou trois, on crée une activité que l'on imposait aux autres. On n'est plus dans cette démarche. On est dans la démarche du « on va construire ensemble ». Et qu'est-ce qu'on construit ensemble ? Et quelle est l'orientation et dans quelle direction on va, quoi ? Après, on y va ou on n'y va pas. Mais on décide collectivement. C'est comme l'action. L'action revendicative, l'action syndicale. C'est comme la grève. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que nous voulons ? Pourquoi on le veut ? Augmentation de salaire, etc. Le mouvement syndical, les primes d'intéressement. On est confronté au même problème. Est-ce qu'on va revendiquer au patron une prime d'intéressement ? Alors que lui, il ne nous augmente pas les salaires, et il nous donne de l'intéressement, qui n'est pas soumis à cotisation sociale, etc. Il sait pourquoi il nous donne l'intéressement, et pas les salaires. Bon, on est confronté aux mêmes contradictions apparentes. Mais je pense après que c'est le personnel qui a la réponse. Hein. C'est pas nous. Enfin, moi, nous voyons les choses comme ça, quoi. Je pense qu'il faut sortir du guide, quoi, du guide spirituel qui pense à la place des autres. Parce qu'on serait à l'inverse de ce qu'on veut créer dans ce festival même. C'est donner aux gens les moyens de réfléchir, de s'investir, de comprendre, d'analyser et de revendiquer ce dont ils ont besoin. C'est ça qu'on veut faire.
Alors, Alain Thomas, Jean-Michel et puis Céline. Alors, on essaie de faire un peu court, parce qu'après, il y a des mains qui se lèvent, et puis après, il y a le débat du GFN.
Ouais, je vais faire très court. C'est pour continuer un petit peu ce débat-là. Effectivement, que dans un CE, on n'a pas la possibilité, de par les financements que nous avons, de pouvoir aller dans tous les domaines, travailler selon notre philosophie, qu'elle soit partagée ou qu'elle ne soit pas, mais tout au moins la mettre en débat. Ce qui fait que, pour bon nombre, il y a parfois l'impossibilité de faire autrement que de se retourner vers le secteur marchand. C'est une éventualité à laquelle on ne peut pas se soustraire. Et c'est pourquoi, pour revenir sur la billetterie, l'année dernière, à plusieurs CE, alors CE de la CPAM, CE de la Monnaies et Médailles de Pessac et CE Connex, on a travaillé à lancer une association de billetterie, donc qui a commencé chez Connex pendant 3 mois et demi et qui a vu le jour en tant qu'association loi 1901 le 1er juillet 2004. Cette association aujourd'hui regroupe 20 CE et représente les intérêts de 14 000 salariés sur Bordeaux. L'idée, elle est laquelle ? Aujourd'hui, vu comme on le disait que le CE n'a pas forcément vocation à pouvoir développer toutes les activités et est obligé de passer dans certains secteurs, secteur marchand dans ce domaine-là, j'en connais plus que deux sur Bordeaux ou sur la place bordelaise, c'est Mascaré, ex-Méclub et CIE, Club Inter-Entreprise, qui sont bien dans un secteur complètement marchand de chez marchand en recherche de profit. Je critique pas, je banalise pas, j'analyse juste. Donc l'idée, c'était de pouvoir non pas concurrencer ces boîtes-là en termes de dire ben on va vendre moins cher, on va faire mieux, le cinéma coûtera moins cher aux salariés. Ça appartient à chacun CE. Dans le collectif, c'était de dire il faut qu'on puisse, à partir des besoins des salariés. Et la question n'est pas de dire on vous vend plus de CGR, on vend plus de Mégarama. Mais est-ce que l'idée, c'est de dire oui, on va favoriser la consommation du supermarché du cinéma. Ben non. C'était à partir des besoins, mais en même temps développer philosophiquement autre chose. C'est-à-dire pouvoir faire vivre des petites structures, proposer des avant-premières dans des petites structures, dans des petits théâtres, et de pouvoir faire vivre tout ça. C'est-à-dire, c'est donner une autre idée de la culture, dans ce domaine-là, par exemple, que ce que l'on peut vivre dans les supermarchés. Et donc, c'est philosophiquement bien une idée qu'on veut développer à partir, en même temps, de certains besoins de salariés. C'est-à-dire qu'on n'écarte pas le besoin qui pourrait être complètement à l'encontre de ce que nous, on veut mettre en place, mais on va essayer de juguler les deux pour amener sur d'autres idées la consommation culturelle. juste un petit mot, s'il y a des CE qui sont présents, là, l'association est ouverte à tous ceux qui veulent y adhérer.
Je crois que les questions qu'on évoque sur la réponse aux besoins est une question qui dépasse le cadre des CE, qui est une question extrêmement compliquée. D'une part, qu'est-ce que c'est qu'un besoin ? Faut-il répondre à tous les besoins ? Ça, c'est encore plus compliqué. Et il me semble aussi que quelquefois, il y a une confusion, mais pas ici, enfin, c'est beaucoup plus général, entre un besoin et une demande. Or, les salariés dans l'entreprise, ce qu'ils expriment, c'est une demande. C'est nous qui pensons que c'est un besoin. Et des fois, la demande est un besoin. Des fois. Mais des fois, il y a des demandes qui ne sont pas forcément des besoins. Et moi, j'ai compris ça il n'y a pas très longtemps, comme quoi j'ai un peu long à la détente. J'ai une amie architecte qui travaille avec les gens. Et lorsqu'elle crée une institution, enfin un bâtiment, elle voit tout le monde. Elle voit ceux qui vont l'utiliser, ceux qui vont la voir de chez eux et ceux qui vont la pratiquer. Et récemment, elle a construit une école maternelle. Donc elle a vu tout le monde, les enfants, les petits-enfants, elle a vu les professeurs, elle a vu les parents d'élèves, elle a vu les gens du quartier. Et donc elle voit les instits, et les instits, voilà, ils disent, voilà, nous ce qu'on a besoin, c'est d'une mezzanine. Alors elle dit, attendez, ça c'est une demande, la mezzanine, mais quel est le besoin de la mezzanine ? Quel est le besoin ? Et les gens me disaient, nous ce qu'on a besoin, en fait, c'est d'avoir des volumes grands, que l'on puisse partager. Il dit, voilà, ça c'est un besoin. La mezzanine, c'est une réponse possible, technique. Mais ce n'est pas un besoin. Le besoin, il n'est pas celui-là. Peut-être que je ferai mezzanine, mais peut-être que je ferai autre chose. Et donc, il y avait une confusion là de la part des gens entre la demande qui était la leur et le besoin réel exprimé, qui était bien plus grand, bien plus large qu'une petite réponse technique, mezzanine. Et je pense que c'est un débat extrêmement intéressant. Parce que les demandes, elles sont de plus en plus grandes. Et là, je parlais tout à l'heure des mutations sociales, culturelles. C'est vrai qu'aujourd'hui, les CE, c'est plus ceux de Jean Villard, où effectivement, il y avait une très grande proximité entre la demande et le besoin, qu'on connaissait bien. Aujourd'hui, les médias, la télévision, Internet, enfin tout un tas de structures façonnent des demandes. Mais est-ce que façonner des demandes, c'est créer des besoins ? C'est pas si évident que ça. Quels sont les besoins réels des salariés ? Et là, la réponse à cette question, elle renvoie effectivement, pour une part, à d'où on vient. Je prends par exemple deux exemples historiques, parce que ça paraît maintenant un peu lointain, et puis on n'a pas forcément les réponses. Mais lorsque les CE ont été créés en 1945, les deux premières choses qu'ont fait les CE, c'était de créer des centres de vacances et des cantines. Mais à l'époque... Donc après la guerre, donc j'ai parlé de 36 tout à l'heure, en 36, l'État accorde 40 jours de congés payés aux ouvriers. Il n'y a pas de structure de tourisme en France. Il n'y a rien, puisque 15 jours avant, il n'y a pas de congés payés. Et donc il n'y a pas eu le temps, en un an et demi, au niveau de l'État, au niveau de tout le monde, de créer des centres de vacances. Donc les gens avaient le droit aux vacances, mais pas de lieu pour y aller. D'ailleurs, on connaît tous ces images des gens qui vont en tandem planter la tente au bord de la Marne ou à Deauville, mais dans des lieux qui étaient des lieux sauvages et pas du tout adaptés aux besoins de confort voilà, qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, en 1945, les CE, les salariés ont les congés payés, ils sortent de la guerre extrêmement fatigués et cassés, et donc ils ont besoin de vacances de qualité. Et donc les CE vont répondre concrètement quelques années en créant un réseau de centres de vacances. Et on a des comptes rendus, notamment du CCOS, où il y a un politique d'achat de terrain, et très très vite, on va monter des villages de toiles pour répondre à ce besoin de vacances, qu'un besoin de santé publique. Et de même, lorsque les CE sont créés en 1945, je rappelle que la France est rationnée jusqu'en 1947, hein, donc le manger correctement est une question de survie pour les gens. Et si les CE ont créé des cantines, c'est pour ça. Et ceux qui maintenant rigolent de ça devraient se rappeler qu'en 1945, la France était rationnée et que les CE ont pris des mesures pour que les gens mangent bien. Et dans le premier compte-rendu de séance du CE de la SNECMA Gennevilliers, en mars 1945, la première délibération prise par le CE, c'est de dégager 5 salariés avec un véhicule pour aller prendre de la viande de bœuf dans le Charolais, pour que les gens mangent. Et à l'époque, c'était des besoins et des enjeux. Donc aujourd'hui, il me semble qu'il faut poser la question, donc quels sont réellement les enjeux d'aujourd'hui en termes de culture. Et donc ces enjeux, moi je pense, mais après il y a toute une liste, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure du... du manque de pluralisme et du consensus, eh ben, l'un des enjeux essentiels, c'est de donner aux salariés la possibilité de faire leur libre choix, c'est-à-dire de découvrir des musiques qu'ils ne verront pas à la télévision, de découvrir des formes de littérature qu'ils ne verront pas à la télévision, à la FNAC ou chez Virgin, ou encore moins à Auchan ou chez Carrefour, de les mettre en relation avec la diversité et le pluralisme. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'autre enjeu, c'est effectivement comment permettre aux gens dans l'entreprise et hors de l'entreprise d'être des citoyens, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui agissent sur la grande histoire et puis sur la leur. Et comment aujourd'hui on le fait. Et donc la question, les deux questions que je pose, c'est enfin, par rapport à la culture, et peu importe ce que c'est au fond la culture, je crois que la question c'est de quelle culture a-t-on besoin, nous aujourd'hui en 2005, pour être des femmes et des hommes capables de vivre ensemble en paix, en liberté, en respectant les autres et en étant des acteurs de l'histoire. Voilà. Pour ça, de quelle culture j'ai besoin ? De quelle culture j'ai besoin ? Et la réponse, elle n'est pas écrite là-dedans, enfin, dans aucun bouquin. Elle est l'analyse concrète, entreprise par entreprise, des enjeux. Tu parlais tout à l'heure des problèmes d'illettrisme dans l'entreprise, il y en a dans d'autres. Et bien oui, par exemple, cette question-là, c'est un enjeu. Parce qu'on n'est pas citoyen si on n'est pas quelqu'un qui lit tout seul et qui passe pas par PPDA le soir. Donc quels sont les enjeux qu'on connaît en général, les enjeux de la démocratie, de la citoyenneté, d'être acteur de son histoire, et puis après des enjeux plus locaux, entreprise par entreprise. Et dernière petite chose pour l'instant, je crois souvent lorsqu'on parle des CE, on a le défaut, mais ça c'est aussi ça dépasse le cadre des CE, de dire comment. Comment faut-il faire ? Et je pense que la première question, c'est pourquoi on le fait. Je crois que la question du comment est une question seconde. Je ne dis pas qu'elle est secondaire, elle est seconde. La première question, c'est pourquoi ? Pourquoi les CE aujourd'hui et pourquoi la CGT s'intéresse à la culture ? Pourquoi ? Parce qu'on pense quelque part que la culture, c'est ce qui permet aux femmes et aux hommes, aux ouvriers, employés, salariés, d'être des citoyens à part entière, d'être des acteurs. Et si c'est ça toujours l'ambition qu'est la nôtre, si c'est ça, on verra comment faire. On verra comment.
Céline ?
Oui, avant qu'on passe la parole. Mais juste rapidement, moi, je suis complètement en accord avec ce que disait Jean-Michel. En même temps, je le lirai aussi aux questions de démocratie dans l'entreprise, aux questions de démocratie syndicale, où il y a effectivement besoin que l'action des CE, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais en matière culturelle, s'appuie sur la réflexion des salariés et des syndiqués. Et si on n'a pas effectivement ça, cet investissement de chacun, hein, en s'enlevant ces barrières que l'on nous crée effectivement depuis des années parce qu'on est à un petit niveau, je pense qu'on peut rapidement virer effectivement dans cette espèce de pensée unique sur la culture qui fait qu'effectivement parfois les CE, en n'ayant pas de porte de sortie en termes de réflexion, restent sur des choses communes telles que une billetterie classique ou autre. Je crois que ça c'est un élément à mon avis déterminant que l'on a essayé de mettre en place, que l'on essaie de mettre en place aujourd'hui chez Cheminots et qui pour l'instant a de bons résultats.
Oui, bonjour, moi je m'appelle Pascal, je suis plus à la CGT mais je suis paysan en agriculture biologique. Ce débat sur la culture m'intéresse fortement parce qu'on expérimente dans mon département, les Hautes-Pyrénées, là je suis festivalier pour 2 jours simplement, un partenariat avec la CSAS, EDF et GDF sur les questions de l'agriculture, hein, et en même temps de la restauration des estivants, des jeunes, mais aussi des maisons familiales. Je dis c'est important parce que tout à l'heure, Monsieur Thomas parlait des marchands de soupe et en gros du système marchand. Et ce qu'on essaye de faire avec la CSAS, EDF et GDF, c'est continuer sur un territoire déterminé à faire venir à faire vivre des petites fermes en agriculture paysanne. Là, c'est en agriculture biologique pour le coup. Et donner une alimentation de qualité à tous les jeunes et à tous les estivants qui viennent dans les Hautes-Pyrénées. Je pense que c'est une démarche qui est d'autant plus prégnante parce que elle perpétue des viabilités en termes économiques sur un territoire donné. Deux, elle continue à faire en sorte que les cuisiniers, chefs de cuisine puissent exercer pleinement leur métier au travers de formations qu'on dispense, mais en même temps au travers des savoir-faire qu'ils perpétuent, qu'ils avaient, qui étaient complètement enfouis parce que Aujourd'hui, force est de constater que les comités d'entreprise, ils ont sous-traité, alors c'est pas le cas de la CCAS, EDF, GDF, mais tout ce qui est alimentation, aux marchands de soupe, et ces marchands de soupe, c'est les trusts de l'agroalimentaire qui mettent en place tout ce qui est issu de la PAC, la politique agricole commune, c'est-à-dire c'est le moindre prix et c'est le moins disant au niveau des prix. Donc je crois que cette expérience, elle vaut le coup, je saisissais le micro parce que je crois qu'on ne peut pas parler de culture si on ne parle pas alimentation, si on ne prend pas conscience qu'on est dans un pays, j'ai envie de dire, de surabondance parce qu'on a des aides à l'exportation de nos céréales et nos denrées alimentaires et que dans un même temps, dans les cités populaires, mais en même temps, tout un chacun n'est plus en mesure aujourd'hui de pouvoir se payer des produits à haute valeur ajoutée, et y compris ce que je produis moi, puisque je suis sur une petite ferme en agriculture biologique, et tout le monde ne veut pas se payer du porc noir gascon à 14 euros le kilo. Donc, on a bien conscience de ces questions, mais en même temps, on a les moyens, il me semble-t-il, d'explorer. Et ce partenariat mis en œuvre avec la CCAS, EDF et GDF, là, sur la DR Sud-Ouest, donc qui concerne effectivement Aquitaine, Pyrénées-Bigorre, Genêt, mais pour l'instant localisé sur le département des Hautes-Pyrénées avec une extension sur 5 autres régions en France, mais je pourrais... Par la suite, s'il y en a qui veulent des tuyaux ou des infos plus complètes, vous les donner. Ça vaut le coup parce que c'est une convention qui lie d'une part un accompagnement éducatif et pédagogique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans les fermes aujourd'hui. Donc les gamins, ils viennent faire des visites de fermes, mais en même temps, ils discutent avec les paysans. Il y a un vrai lien qui se recrée. C'est aussi des interventions, des ateliers de découverte sensorielle au niveau des goûts, au niveau des odeurs. Au niveau gustatif avec les enfants, c'est des formations de cuisiniers, mais c'est aussi un volet économique sur un approvisionnement entre 50 et 70 000 euros. C'est ce qui se fait cet été dans mon département. Voilà, je ne serai pas plus long, mais vous dire que ça existe, que heureusement qu'il y a encore un mouvement syndical fort et puissant, enfin fort et puissant, entre guillemets, qu'il y a un mouvement syndical qui lutte et qui résiste, et que nous, les paysans, on est preneurs d'une telle démarche et on est prêts à la construire et à l'élargir sur d'autres départements et nationalement. Voilà.
Alors, entre répondre à la demande et puis penser à la place des autres, il y a évidemment tout un champ. Et tant mieux si ce débat sur les CE, il nous donne l'occasion d'y revenir. Parce que, bon, on dit les CE ont 60 ans, c'est vrai, mais la racine des CE, on peut dire que c'est 1830. 1830, l'Union ouvrière... les bourses du travail en germe. Il faut du travail pour les hommes et les femmes. Il faut une solidarité pour qu'ils se défendent. Il faut de l'instruction. Il leur faut un temps pour de loisirs. C'est Flora Tristan qui écrit tout ça dans l'Union ouvrière 1830. Et il faut une solidarité, donc les assurances, etc. Ça va mettre presque 70 ans jusqu'à la création de la CGT pour que ça se mette en place. C'est 1895. De 1895 à 1936, comme disait Jean-Michel ce matin, on va continuer par la lutte et par une prise de conscience qui a nécessité de se battre toujours pour le travail, toujours pour la question de l'instruction, de la lecture, etc., toujours pour la défense et la solidarité. Les CE sont mis en place. On est dans une nouvelle phase des CE. Et c'est grâce au CE, effectivement, qu'on a pu parler de cet accès à la culture qu'on bannit aujourd'hui. On n'est plus dans l'accès à la culture. Aujourd'hui, on est dans une autre réflexion qui est une démocratisation autour de la culture. Mais pour moi, il y a quelque chose qui reste en permanence. Et quand tu dis que c'est pas écrit dans les livres, moi, je crois qu'on n'a rien à inventer. Et quand c'est toi-même, d'ailleurs, qui écrit que s'émanciper, c'est se libérer, s'affranchir, se grandir, voir plus loin, plus large, plus aigu, c'est se débarrasser des carcans. S'émanciper, c'est se débarrasser des prêt-à-penser, des formatages de style, du calibrage des imaginaires. S'émanciper est une quête, une volonté, un processus. C'est toujours, pour moi, la base des besoins. Se battre pour le travail et pour la défense de son emploi, qui est l'autre volet des comités d'entreprise, c'est toujours un besoin, c'est toujours à la base. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a besoin effectivement de répondre à la demande, mais peut-être, puisqu'on est un peu plus engagé, alors nous, organisation syndicale, puisque je suis à la CGT, à l'UGIC CGT, peut-être qu'on a aussi cette responsabilité, non pas de penser à la place des autres, mais de penser plus précisément comment aujourd'hui on répond à ces besoins qui sont toujours les mêmes. C'est la question de l'émancipation, la question de la formation, la question de la culture et la question de la protection du travail, de l'emploi et de la protection des gens de travail. Et ça, je crois qu'on a effectivement une responsabilité. Mais en même temps, c'est un problème de société. Parce que les CE nous ont permis d'accéder à tout un tas de facilités, sociétés de loisirs, et tant mieux. Bon, attention, on ne s'endort pas. Comment on fait pour ne pas s'endormir et pour ne pas aujourd'hui se complaire dans un festival où, clé en main, on va nous donner 4 jours avec des musiques et des trucs partout, etc., et pas un seul débat. Ou alors, comment on va se battre pour venir ici? C'est anecdotique, presque, sur l'ensemble de la société. Se battre pour venir ici, où on peut en même temps être au cœur de la création artistique, être au cœur d'une création de la pensée, parce que on pense ensemble, là, et on crée notre pensée. C'est ça la question. Et je crois que quand on est aujourd'hui qu'on est un salarié d'entreprise, il me semble que le plus important, c'est pas de se dire ah ben il y a un acquis, les comités d'entreprise, ça donne des avantages, etc. Il faut défendre l'acquis. Non, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour notre avenir, pour qu'on continue à pouvoir s'émanciper ensemble, à travailler ensemble dans les meilleures conditions, à faire que le CE il soit pas vidé non plus de toutes ses prérogatives comme c'est en train de se faire actuellement. Hein. Quand on vous balance une ordonnance au mois d'août pour dire que pendant 2 ans les salariés nouveaux embauchés n'auront plus de défense, ils pourront être licenciés sans que personne ait droit de regard là-dessus. Bon, le CE, avant, il avait droit de regard sur tout ça. Et je crois que on a autant sur la question de l'émancipation que sur les droits dans le travail, il faut qu'on réfléchisse ensemble comment faire autrement. Peut-être penser quelques-uns, oui, mais on pense pas à la place des autres. On pense peut-être à côté, en même temps, etc. Et puis partager, parce que tout le monde n'est pas sur les mêmes préoccupations. Et comment on fait pour qu'il y ait un peu plus de gens qui, peut-être, comprennent que c'est pas une prérogative de l'organisation syndicale, le CE. Je crois que c'est vraiment un enjeu pour tous.
Voilà. Alors, on va arrêter. Je te donne la parole. Mais après, on arrêtera après l'intervention du copain. 2 choses. La première, voir que les choses bougent quand même. Une anecdote. Il y a 16 ans, quand la CGT est arrivée pour la première fois à Uzest, on était 4 avec une cabane en bois, tous les gens disaient, mais qu'est-ce que vous foutez là, la CGT? Enfin bon, bref. Et j'avais une discussion avec Charles Sylvestre, qui est dans le coin là, que j'ai vu tout à l'heure. Et moi, quand j'étais arrivé, je me disais, mais ça serait bien quand même si les comités d'entreprise pouvaient participer à cette aventure. Et Charles me disait, tu sais, c'est compliqué, moi j'ai essayé, etc. Bon, fait bon, 16 ans après, on a quand même un inter-CE avec 3 comités d'entreprise, la CMCAS qui s'est investie depuis maintenant 13 ans sur Uzest, les cheminots, la Conex, avec des choses qui ont été faites il y a quelques années auparavant. En tout cas, on a des comités d'entreprise qui se posent ces questions et qui sont là aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui ont avancé. Deuxième chose, ce débat sur les CE, bien entendu, il pose quelles perspectives, y compris en termes de droits et de moyens pour les comités d'entreprise. Parce qu'en 60 ans, pas beaucoup de choses ont bougé en termes de droits des comités d'entreprise. Donc on a encore de grandes bagarres à mener sur cette question-là. La dernière chose... moi, j'interpelle tout le monde. Enfin, les gens qui participent au débat à Uzest, par exemple, ils sont soit salariés dans les entreprises ou dans la fonction publique, etc. Et cette question de l'intervention du CE, en tout cas de l'appropriation du CE par le plus grand nombre, elle reste posée, elle nous est posée à chacun d'entre nous. Donc ça veut dire comment, après, on s'empare de ces choses-là. Dans les jours qui vont suivre, demain, on est quoi aujourd'hui ? Jeudi ? Oui. Ce soir, la CGT organise la projection d'un film qui s'appelle Jusqu'au bout. C'est un film qui retrace la lutte des Célatex, dont vous avez sans doute entendu parler. Ces ouvriers qui ont occupé leur usine qui était en liquidation et qui avaient menacé de mettre de l'acide dans la rivière qui passait à côté. Maurice Favlik en a fait un film qui sera diffusé sur France 2 dans quelques mois. Et donc, vous aurez l'occasion à la fois de rencontrer le producteur du film et de discuter autour de ce film. Vous le verrez en avant-première, puisqu'il n'est pas passé à la télé. Demain, il y a une journée particulière sur les femmes en colère, avec là aussi des choses qui ont bougé. Cette journée, elle a été construite en collaboration avec le collectif mixité de la Gironde, CGT, et la compagnie. C'est-à-dire qu'on s'est mis autour d'une table et que les copines, le syndicat, il a dit, voilà, nous, on aimerait bien faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Et les artistes ont dit, oh, mais putain, à partir de là, nous, on pourrait faire ça. Et on a co-élaboré cette journée. C'est quelque chose, je crois que c'est la première fois depuis en 16 ans qu'on est là, qu'on a réussi cette gageure. Après, vous aurez l'occasion de l'apprécier ou pas demain. Et en tout cas, demain soir, vous aurez aussi l'occasion de voir la projection du dernier documentaire de Marcel Tria, qui n'a pas encore été diffusé non plus. Ça s'appelle « Femmes précaires ». C'est un film magnifique qui ouvrira la séance de le spectacle du soir. Et puis on vous invite tous les jours à d'autres débats sur l'espace de la CGT. Je passe la parole à mon copain de Bègle, qui fait partie, si vous avez entendu parler dans l'actualité de la dernière période, des 14 salariés des PTT du centre de tri de Bègle, qui ont été victimes de sanctions de la direction, tout simplement parce qu'ils revendiquaient depuis plusieurs mois... Ils luttaient contre la suppression d'effectifs. Et aujourd'hui, on voit, là aussi, comment les choses se radicalisent de la part du patronat, de la part de la fonction publique. On prend le bâton, et chose exceptionnelle dans la fonction publique, on parle de révocation, on met des sanctions très très lourdes sur la tête de salariés qui ne font que revendiquer leurs droits. Mais on licencie. Et ça, je pense que ça sera intéressant ce soir de faire le lien avec la projection du film jusqu'au bout, c'est-à-dire comment les formes de lutte elles évoluent et comment le patronat lui aussi a une stratégie de radicalisation, de coups, d'exclusion. Enfin, ça pourra faire l'objet aussi de débats ce soir. Je laisse la parole aux copains.
Bon, je me présente, Gérard Dan du collectif 14. Agent des PTT, là, du centre de tri de Bègle. Bon, évidemment, nous avons, depuis plusieurs mois, nous avons lutté contre les suppressions d'emplois d'un plan de restructuration. Il en est arrivé qu'il y a une surrépression qui s'est abattue sur nous et puis que nous étions désignés pour être sanctionnés lourdement. Bon, alors je lance un cri d'alarme. C'est une méthode pour marginaliser la contestation et criminaliser l'action syndicale. Donc les médias nous ont accordé quelques interviews, mais ils ont un peu déformé un peu le quatrième pouvoir, hein, la télévision, les journaux. Ça, tant qu'on n'a pas que... Alors ce moyen de lutte, c'est toujours faire des tracts, organiser les portes ouvertes et aussi bien des meetings de soutien comme on a organisé durant ces derniers mois. Voilà. Je vous remercie de votre attention.
Bon, merci à tous et la place aux amis du GFN. Alors, je vous rappelle ce livre de Jean-Michel Leterrier, disponible, pas à Uzest. Vous pouvez le commander. Vous pouvez le commander à Jean-Michel et vous le trouvez dans les librairies. Que vous connaissez. Les livres. Ah oui. Oui, juste pour terminer, on a publié deux revues exceptionnelles. Bref, dans la CGT, c'est des thèmes sur la culture et également sur l'agriculture, etc. Ce sont des revues très intéressantes avec des participations. Ça aussi, on n'en a pas ici, je crois, mais elles sont aussi. Disponible dans vos organisations syndicales pour ceux qui en ont, sur vos sites dans les entreprises. Voilà, merci.
Estellade Las Arts du Zeste Musical à Villandreau. Jeudi 18, 10h, place Paul Dunesme, espace NVO, débat. 60 ans du comité d'entreprise, où en sommes-nous de la culture? Avec Jean-Michel Leterrier, écrivain, responsable culture à la CCAS. 11h, place Paul Dunesme, espace GFEN, débat ultra court. Faire de l'art pour le comprendre ou faire le sourd pour ne pas s'entendre. 28e Estella de las Arts du Zeste Musical, midi et demi, place Paul Dunesme, scène des ménages, apéro swing décollage, avec Christophe Rocher à la clarinette et Édouard Perrault à la batterie.
Maintenant, c'est la radio. Mais la radio, ça me... La radio, ça me... La radio, ça m'useste. Ça m'useste citron. Ça m'useste terrible. La radio, c'est quelque chose qui est un conseil qu'on se donne dans la nuit entre soi et sa conscience, entre les deux oreilles. L'une qui dort et l'autre qui veille. La radio, c'est à useste l'occasion d'être un larron d'idées, un ramasseur de chansons, un ramasseur de musique, un voleur de clarinettes, un extraordinaire bagnard d'idées à portée nouvelles qu'on se porte sur le dos. Et comme elles nous écrasent quand on le sent vraiment neuf, alors on s'y met à plusieurs. Et tout d'un coup, ça s'allèche. Et tout d'un coup, les platanes sourient. Et tout d'un coup, useste à Villandreau se met à faire du soleil. Et le soleil part des platanes vers les nuages. Et le soleil ouvre les nuages. Et les nuages s'ouvrent comme l'avenir. Car l'avenir, si on s'y met à plusieurs, on le déchire à travers les nuages lourds. On peut déchirer les nuages. J'arrête la radio, parce que la radio, c'est dangereux. Et la radio, ça se diffuse un peu partout. Faut faire gaffe à la radio. C'est menaçant. C'est plein d'idées neuves. Attention, certaines radios vous font penser. Méfiez-vous. Quand on se met à penser à la radio, quand on se met à penser à partir de la radio, c'est que la radio est soupçonnable et subversive. Méfiez-vous des radios. Méfiez-vous de ceux qui parlent dans les radios. Quelquefois, ils ont la langue trop bien pendue. Et à ce moment-là, les jeunes se mettent à dire que les anciens ont peut-être eu raison quand ils ont inventé la radio avec des vieux postes à galène, histoire de se parler un peu plus haut que sur les montagnes, un peu plus haut que sur les fatalités, un peu plus haut que sur les impossibles, un peu plus haut que sur les docilités. Allez, postes à galène, allez, transistor, allez, quartz, allez, radiotisez-vous avec use.
11h. Place Paul Dunesme, espace GFEN, débat ultra court, faire de l'art pour le comprendre ou faire le sourd pour ne pas s'entendre.
Le débat ultra court est reporté à 14h. Dites-vous-le. Le débat ultra court est reporté à 14h. Nous allons laisser la place aux musiciens. Les débats ultra courts sont très légers, donc ils sont déplaçables au gré du vent. Donc 14h précises. Avant, dans le vent, vous pourrez aller à la cour de la mairie pour vous faire signer le bouquin de Lubat & Co. sur Vive la musique. Mais à 14h, de retour pour les débats ultra courts du GFEN.
Place Paul Dunesme, scène des ménages, apéro swing décollage, avec Christophe Rocher à la clarinette et Édouard Perrault à la batterie. Sur les rives du Siron, hommage à Bernard Manciette. 15h, communication de Guy Latry, maître de conférence à Bordeaux 3, son traducteur et ami. Sur les rives du Siron, hommage à Bernard Manciette. Musique avec Beniat Hachiari et Michel Etchekopar. Hommage à Bernard Manciette. Poésique. Accident.